Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, sommes-nous tous des lanceurs d'alerte? Au moment même où Edward Snowden publie ses mémoires vives dans le monde entier, nous allons nous poser la question de savoir si d'Edward Snowden à Greta Thunberg, nous sommes tous justement ces lanceurs d'alerte dont on parle beaucoup. Voilà une expression en effet qui nous est devenue familière en moins de 20 ans, au point que chacun d'entre nous pourrait se rêver dans son entreprise ou son administration en lanceur d'alerte. Pourtant, il est difficile internationalement de s'entendre sur une définition de ce terme. Le lanceur d'alerte est-il un délateur, un dénonciateur, un justicier, un traître, un simple citoyen faisant son devoir? Ce soir, nous recevons l'inventeur de l'expression, au directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Francis Château-Reynaud, une lanceuse d'alerte en duplex depuis les studios de Radio France à Quimper, Irène Frachon, ainsi qu'un responsable d'une institution publique, l'INERIS, chargée de repérer les risques liés à la sécurité environnementale.
Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Ils vont s'en prendre à moi et ils vont s'en prendre aussi à vous.
Pourquoi est-ce qu'on trouve des dossiers médicaux et des échantillons de sang dans un fichier immobilier? Ça vous ennuie pas si je creuse un peu la question?
Le chrome hexavalent, très très nocif.
Bref, ça tue des gens?
Oh oui.
Jamais on a vu pareille campagne de dénigrement contre un informateur.
Il n'est rien moins que le témoin clé d'un des plus gros problèmes de santé publique de notre histoire.
Toutes les preuves, elles sont là-dedans.
Faut arroser les grands médias.
Je suis médecin, moi.
À Pam Pam Girl.
Ça va être Hiroshima.
Ah bah c'est pas mon nom de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis.
Posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai?
Voilà donc quelques extraits de 4 films, Snowden, Erin Brockovich, Révélation et La fille de Brest, qui mettent en scène justement cette question des lanceurs d'alerte et qui nourrissent d'une certaine façon notre imaginaire autour de cette question des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Bonsoir Francis Château-Reynaud.
Bonsoir.
Vous pensiez quand en 1996 avec d'autres, vous avez commencé à réfléchir à cette terminologie, que ça allait devenir aussi célèbre et aussi partagé par tous et par toutes ce terme de lanceur d'alerte?
Non, non, je pense que c'était modestement un travail de sociologue qui avons essayé de formuler les choses au mieux pour éviter précisément d'autres notions. On avait plein de notions à disposition, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, dénonciateur, il y avait pas mal de travaux qui est dénonciateur, je rappelle que c'était la traduction de whistleblower.
Oui.
D'ailleurs, donc, le droit canadien permet d'en l'attester parce que les Canadiens traduisent dans les deux langues. Mais dénonciateur, ça avait été pas mal investi et on voyait bien que ça posait problème. Il y avait prophète de malheur qui marchait bien, c'est une Cassandre, la pauvre Cassandre.
Cassandre, la pauvre.
Et un de mes collègues qui était ingénieur avait proposé capteur.
Ouais.
Je trouvais que c'était un peu quand même techno,
ouais,
quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, les capteurs citoyens, c'est revenu plus tard. On pourra en reparler si vous voulez. Et donc finalement, en rencontrant Henri Pezra, qui était à l'époque toujours sur le dossier de l'amiante et qui portait ce dossier
sur
fort longtemps, un toxicologue, quand on lui a dit que notre programme s'appelait Prophète de malheur, il était financé par le CNRS, hein, c'était tout à fait officiel. Il a dit quand même, c'est vachement péjoratif. Bref. Ben, donc je me suis dit, il faut trouver autre chose. Donc voilà, on a créé cette notion. Et c'est vrai que, enfin, je l'ai proposé et puis ça a été repris. Et à l'époque, c'est resté dans des arènes assez réduites, hein, de chercheurs, mais il commençait à venir des gens, des juristes, quelques journalistes intéressés par les sciences et l'environnement, puis des écolos, des militants, etc. Et donc c'est parti. Au début des années 2000, déjà, quand on trace tout ça, ça commence déjà à circuler pas mal.
Et d'ailleurs, dans son livre qui paraît aujourd'hui, Edward Snowden dit, écoutez, l'allemand, une langue qui a dû lutter contre son passé nazi et la Stasi, est passé de dénoncer donc à informant, je parle pas l'allemand, vous l'avez compris, aux expressions peu satisfaisantes de celui qui donne un tuyau ou un avertissement, de révélateur, de découvreur de scandale et même ostensiblement politique, de dissident éthique. Voilà comment Snowden parle de la façon dont les Allemands ont décidé de traiter de cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, un terme qui lui va bien. Est-ce que c'est un terme qui vous va bien à vous, Irène Frachon?
Bonjour.
Bonjour.
Je vous écoute. J'étais en train de me poser la question, évidemment. D'autant plus que je finalement, alors sans jeu de mots, je suis dans l'affaire du médiateur, un médiateur, et je le suis encore aujourd'hui.
Cette affaire, dont le procès commence la semaine prochaine. Il va durer 6 mois.
Exactement. Alors, j'ai été tout au long de cette histoire qui se déroule depuis 12 ans, au départ lanceur d'alerte professionnel, puisqu'il s'agissait de notifications de pharmacovigilance pour étayer une suspicion de dangerosité du Mediator. Mmh. Et quand le Mediator a été retiré du marché sans que l'agence du médicament manifestement ne veuille faire quoi que ce soit pour s'interroger sur les raisons d'un si long maintien sur le marché et s'interroger aussi sur le sort des personnes ayant subi des dommages, je suis devenue à ce moment-là plutôt whistleblower au nom, enfin, c'est-à-dire proche de dénonciateur. C'est-à-dire que si j'ai publié un livre, qui là s'écartait complètement de la démarche bien sûr usuelle d'un médecin, ce livre avait pour ambition de dénoncer ce qui m'apparaissait relever d'actes délictueux, en l'occurrence, ce que j'appelle de la pharmacodélinquence.
Alors, il faut rappeler que whistleblower, c'est donc un terme américain qui a été inscrit dans le droit américain au 19e siècle, pendant la guerre de sécession, la guerre civile américaine, dans les années 1860, et que c'était une façon de dénoncer des entreprises qui avaient commis des fautes, alors qu'elles avaient passé un contrat avec le gouvernement, un contrat avec l'État. C'est cela. Donc, c'est pour ça que vous dites que vous êtes transformée en whistleblower, Irène Frachon.
Oui, ça correspond, je pense, mieux, en tout cas, l'acte qui consistait à publier un livre grand public pour mettre sur la place publique le débat et la question du Mediator, avec, dans mon livre, des documents qui, lorsque je les ai eus entre les mains, m'ont paru relever effectivement, enfin poser des questions d'ordre pénal, hein, et c'est le procès qui s'ouvre bientôt. En gros, quand j'ai eu ces documents entre les mains, je me suis dit ou je me trompe, ou ça se terminera ça sur le bureau d'un juge d'instruction. Ça a été le cas.
Francis Châteaurenault, il y a tout de même une différence entre l'univers américain et l'univers français, c'est que l'univers américain déteste le mensonge, ça fait partie même des fautes pénales que l'on peut donc avoir pour pouvoir être mis devant un tribunal en l'occurrence, et donc ça n'est pas tout à fait la même chose qu'en France. Il y a cette dimension effectivement de rapport à Dieu, du rapport à la faute que l'on peut commettre devant Dieu en tant que protestant en particulier, et cela c'est très différent dans l'univers américain que l'univers français, Francis Châteaurenault.
Ah oui, c'est des cultures politiques radicalement différentes. Après, les choses se brassent, se mixent. Il y a des risques aujourd'hui qui sont transnationaux. Donc, les scientifiques sont amenés à travailler ensemble depuis fort longtemps. Et il y a une culture américaine dans la science française et un peu partout. Donc, on peut pas. C'est pas si simple que
ça. Bien sûr,
ça
c'est. Ce sont les formes.
Ce qui était intéressant dans l'idée de lanceur d'alerte, si vous voulez, c'était d'abord les deux termes. C'est l'alerte et le lanceur. Donc, il y a deux termes qui sont associés. Et moi, je plaide depuis fort longtemps pour qu'on soit très attentif à la manière dont les deux vont se séparer. C'est comme lancer un satellite, vous voyez. À un moment donné, il y a bien séparation de modules. C'est-à-dire que l'alerte doit avoir sa trajectoire et doit trouver sa carrière et son espace public.
Sans le lanceur.
Alors, avec ou sans le lanceur, mais plus le lanceur reste présent dans l'alerte, et plus évidemment il risque d'y avoir des problèmes de personnalité.
Alors, Philippe, allez-y. Irène Frachon, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes lanceuse d'alerte et vous suivez l'affaire depuis 12 ans maintenant.
Absolument, et je l'ai écrit récemment en disant que c'est une sociologue qui s'appelle Solène Lelinger qui a produit une thèse magnifique sur justement l'affaire du Mediator, mais avec un regard de côté, si je puis dire, celui du sociologue, et qui m'a qualifié, si je puis dire, aujourd'hui de porteur d'alerte.
Ah oui, donc c'est une autre possibilité de le faire, c'est on lance l'alerte et on peut ensuite porter cette alerte, et vous citez dans un article d'Esprit, un numéro qui était consacré au lancer l'alerte, vous citez Schopenhauer, vous dites « toute vérité franchit trois étapes, d'abord elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, et puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence ». On est également avec Philippe Hubert, bonsoir Philippe Hubert, vous êtes directeur des risques chroniques à l'INERIS, il faut dire que l'INERIS est l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, et que donc, en tant qu'institution, vous êtes chargé de dire l'alerte, de dire que parfois il y a des risques et qu'ils sont présents dans l'environnement et dans l'univers industriel, mais aussi peut-être d'en recevoir. Comment faites-vous justement avec ces deux casquettes, qui est à la fois d'être une institution qui représente justement l'État et de l'autre côté un possible recours pour des citoyens qui voudraient dénoncer des risques environnementaux?
Bonsoir. Donc oui, effectivement, notre institution, elle a un ancrage qui est extrêmement scientifique et au sens recherche, avec une dimension expérimentale et sur le terrain. Et donc ça nous donne une position qui est particulièrement utilisée et utilisable au moment d'investiguer les alertes. Donc c'est quand même une de nos...
C'est quoi les alertes en question, par exemple, pour votre institut ?
Alors pour notre institut, il y a deux types d'alertes et il y en a une qui correspond bien, relativement bien au schéma qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire finalement un événement clair avec un lanceur d'alerte et qui dit autour de telle usine il se passe ceci, tiens il y a des vaches qui sont mortes à tel endroit, on sait pas pourquoi.
Il y a des poissons dans la rivière qui
rentrent en l'air. Il y a des poissons qui changent de sexe dans la rivière. Enfin,
ouais, ça peut arriver aussi.
On arrive et on investigue ces sujets-là. Et ça c'est un schéma qui est relativement proche de ce qu'on vient d'évoquer. Mais on intervient aussi beaucoup sur ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles et des voies multiples. C'est-à-dire que quand on prend des sujets, comme on a beaucoup travaillé sur les nanoparticules ou sur les champs électromagnétiques, et là on est incapable de pointer du doigt, c'est monsieur machin qui a lancé le sujet. On voit monter dans la société une série de gens qui s'inquiètent, etc. Et là on rentre dans un temps qui est un peu différent, qui est le temps long, qui est le temps de la recherche.
Et donc vous n'êtes pas forcément ceux qui disent au bout du compte celui-ci a raison ou ceux-ci ont raison et ceux-ci ont tort, parce que il faut laisser le temps, dites-vous, c'est comme pour la question de l'amiante, même si on savait depuis très longtemps que l'amiante était dangereux et qu'il n'a pas été interdit cet élément dans la nature pendant très longtemps et dans l'industrie, mais néanmoins vous dites il faut laisser le temps aux scientifiques de déterminer ce qu'il en est des risques.
Alors, ce que je voulais évoquer, c'est qu'il y avait justement deux temps, deux logiques, etc. Donc il y a ces signaux faibles avec ces voix un peu diffuses et dans lequel il y a le temps de la recherche à installer. On a commencé à travailler sur les champs électromagnétiques en 1996 à peu près. Donc et puis il y a le temps de l'expertise. Et là, bah non, on peut pas. Il n'est pas question de laisser les sujets en suspens.
L'expertise d'un fait avéré qui s'est déroulé.
Là, il faut répondre, il faut dire pourquoi. Est-ce que c'est ça la cause ou pas ça la cause ?
Francis Chateau-Reynaud.
Non, mais je partage tout à fait l'idée qu'il y a une pluralité de processus. Moi, je m'intéresse justement à toute une gamme de processus. C'est ce qui m'intéresse
avec les chercheurs qui sont autour de vous à l'École des études. Vous avez monté donc une sorte de veille autour de ces
veille sociologique, oui, de ces questions-là, parce que ça va poser plein de problèmes. Une alerte qui commence à prendre forme, elle va poser des problèmes de controverse, qui entre dans la controverse, qui pense avoir des arguments, des raisons, des études, des faits à mettre sur la table, des problèmes de régulation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des règlements, est-ce qu'il faut faire une loi, est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut faire des moratoires, qu'est-ce qui se passe à l'étranger, donc il va y avoir très rapidement des opérations, des acteurs vont se saisir de ça. Irène peut en parler, c'est la question des victimes, très vite, qui va surgir, des victimes potentielles ou réelles, qui vont s'organiser ou pas s'organiser, ça peut être très long, hein. Dans le cas de l'amiante, ça a été particulièrement long, vous l'avez rappelé, c'est 1906, le premier rapport d'un inspecteur dans une usine, et c'est 1997 en France, l'interdiction formelle, avec tout un tas de dérogations, c'est assez compliqué, et on est encore aujourd'hui avec des chantiers de désamiantage qui posent problème, et puis on continue à compter les morts. Donc ça peut être des processus très longs, dans lesquels vont entrer plein d'acteurs, il va y avoir des moments historiques très intéressants. Hein. Et donc pour la sociologie, je trouve que c'est un observatoire permanent finalement de la vie sociale.
Et puis aussi, il y a un autre point, Irène Frachon, c'est que ça n'est pas la même chose si on est à l'intérieur d'une structure ou si on est à l'extérieur d'une structure. Vous êtes donc médecin pneumologue, vous avez donc à partir de votre compétence de médecin, vous êtes posé des questions sur ce médicament, sur le Mediator et sur ses usages en particulier. Vous étiez à l'intérieur de la structure médicale, mais on peut être aussi à l'extérieur et ça n'est pas exactement la même chose.
Je n'étais pas à l'intérieur, surtout de la structure servie.
Ah ben non, vous n'étiez pas dans le laboratoire, ça c'est sûr.
Voilà, et ça c'était un point fondamental, parce que depuis que l'affaire a éclaté, un certain nombre d'anciens de Servier sont venus me raconter comment ils avaient sonné l'alerte sur un certain nombre d'anomalies et de développements au sein de ce laboratoire, et comment ils avaient été impitoyablement écrasés par les services juridiques et également par des opérations d'intimidation et ça s'était terminé par des procès au prud'homme, perdus ou gagnés, ça dépendait. Donc ça pose la question bien sûr de l'alerte au sein d'une entreprise et je pense que c'est une question très très importante. Moi finalement je ne dépendais de personne sauf de ma hiérarchie hospitalière, au CHU de Brest. Je ne dépendais pas de l'agence, qui s'est sentie bien sûr très mise en cause par mon livre, l'agence du médicament. Je ne dépendais pas non plus du laboratoire Servier. Et le résultat aujourd'hui, c'est que j'ai toujours mon job.
Est-ce qu'il n'est pas le cas, par exemple, d'Edward Snowden, dont on écoute un extrait de l'entretien qu'il a donné hier sur France Inter, donc avec Edward Snowden, c'est ce lanceur d'alerte qui décrit ensuite la vie un peu complexe, mais aussi très médiatisée, qu'il peut avoir, une vie aussi normale que possible en exil à Moscou.
Il y a de nombreuses personnes qui ont cette image, que je vis dans un bunker, qu'il y a des gardiens armés autour de moi. Non, rien de cela n'est vrai. Je faisais beaucoup plus attention autrefois, je faisais attention de ne pas être reconnu. Mais je n'ai jamais coopéré avec aucun gouvernement. Et je ne le referai jamais. Je paye mon loyer, je fais ma propre sécurité, et j'ai mis en place ma propre sécurité pour l'appel que nous sommes en train d'avoir en ce moment. Et oui, je me promène dans les jardins, dans les parcs, avec ma femme, je vais au magasin. Je vis une vie aussi ordinaire que celle à laquelle on peut penser dans la situation dans laquelle je suis.
Francis Châteaurenault, ce n'est pas la même chose d'être à l'intérieur d'une structure dont on dénonce les agissements, ou à l'extérieur, effectivement, Irène Frachon disait très justement qu'elle ne pouvait pas être sanctionnée, a priori, pour la dénonciation qu'elle faisait de l'usage de ce médicament.
Alors, c'est pas du tout la même chose, c'est certain. Si on prend le cas du droit du travail français, par exemple, il y a un lien de subordination, c'est comme ça que les juristes le qualifient, qui fait que on est censé obéir et se plier aux règles de fonctionnement de l'entreprise, et généralement, voilà, c'est la loi du silence qui l'emporte très vite quand il y a des problèmes. Donc la question, c'est comment, dans le cas de Snowden, en fait, on est dans un cas de fuite, enfin de sortie, quoi. Il a organisé la fuite, la sortie, leak, comme WikiLeaks, d'un tas d'informations, un tas impressionnant d'ailleurs de documents. Donc c'est littéralement, il a organisé une sortie, quoi. Donc
il avait organisé sa sortie, mais il a été interrompu en chemin puisqu'il s'est arrêté à Moscou.
Il s'est arrêté à Moscou, mais parce que il a eu aussi tout un réseau qui s'est organisé autour de lui. Hein. Ça, il n'a pas fait tout seul son transport de Hong Kong à Moscou. Il y a eu tout un tas de relais. Donc les alertes, c'est assez intéressant parce que ça pose le problème justement de qu'est-ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est à l'extérieur. Et parfois, les lanceurs d'alerte externes sont aussi quand même sous pression très forte, parce qu'il y a des procès en diffamation, parce qu'il y a des manières de créer au fond une pression sociale très forte sur des riverains, sur des victimes, sur des chercheurs. On peut prendre plein d'exemples. Moi, j'ai une collection d'exemples. Ça rentre pas dans l'émission, donc voilà. Mais c'est vrai que le cas de l'intérieur est normalement ce qui a été traité par la loi Sapin 2, dite loi Sapin 2, donc de 2016, qui est censée protéger les personnes qui ont de bonnes raisons de penser que l'intérêt général est en cause. On pourra y revenir.
Vous avez vu, justement, depuis cette loi Sapin, dite Sapin 2, donc de 2016, un changement dans l'univers qui est le vôtre. Vous avez travaillé dans la sûreté nucléaire, l'inspection de la sûreté nucléaire auparavant. Philippe Hubert, vous êtes directeur des risques chroniques de l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Est-ce que, justement, le fait qu'il y ait une loi qui protège en partie, mais pas totalement, justement, ces fameux lanceurs d'alerte, à partir de 2016, a changé l'attitude? Ou est-ce qu'au bout du compte, vous ne voyez pas de différence au sein d'une institution comme la vôtre?
Au sein d'une institution comme la nôtre, donc on n'a jamais été vraiment soumis à des pressions, dans la mesure où on n'est pas en train de produire quelque chose et on n'est pas en train de, comment dire, on n'est pas en train de défendre telle ou telle position. Donc on a quand même mis en place, parce que la loi Blondin-Sapin implique que l'on mette en place un système à l'intérieur de l'entreprise pour que les personnes puissent déclarer au sein de l'entreprise tel ou tel phénomène, tel ou tel sujet qu'ils trouvent déplaisant ou qu'ils trouvent dangereux. Donc ça, on a mis ça en place, on n'a pas eu tellement d'éléments. Ce qui était gênant dans la loi telle qu'elle s'est mise en place, c'est que les personnes morales n'ont pas le droit, ne sont pas dans la position de saisir. Il y a une commission nationale de la déontologie en santé publique et environnement, et seules les personnes physiques peuvent la saisir, pas les personnes morales. Donc ça met les gens qui voient un sujet difficile en position délicate, parce qu'ils ne peuvent pas faire intervenir leur entreprise. Ce que l'on a fait en tant qu'INERIS, de temps en temps, sur certains sujets, c'est l'INERIS qui a signé une lettre à telle ou telle autorité pour dire qu'il y a un problème à tel ou tel endroit.
D'autant que ça pose une autre question. On est dans une administration, on a ce qu'on appelle un devoir de réserve, par exemple, Francis Château-Renault. À partir de quel moment peut-on dépasser ce devoir de réserve pour pouvoir entrer justement dans ce nouvel univers qui est l'univers du lanceur d'alerte.
Là, on ouvre toute une boîte qui a créé des controverses. Hein. C'est-à-dire la loi Blandin en 2013, qui a été faite donc dans la première partie du gouvernement socialiste, prévoyait précisément que le lanceur d'alerte, d'ailleurs, la définition, c'était personne physique ou morale qui avait le sentiment ou qu'un danger ou un risque ou qu'une violation grave de etc était à l'œuvre pouvait le rendre public.
Mais la loi Sapin 2.
Et la loi Sapin referme ça en obligeant les personnes à s'adresser d'abord au supérieur hiérarchique direct et ensuite éventuellement au préfet et après à des autorités publiques. Ce qui évidemment pose le problème aussi de la définition de l'intérêt général.
Eh oui, parce que c'est une question d'intérêt général.
On n'est pas tous d'accord sur l'intérêt général.
Irène Frachon.
Oui, alors ça pourrait évoluer, puisque si mes informations sont bonnes, au Parlement européen, une directive sur la protection des lanceurs d'alerte devrait un petit peu rectifier le tir, puisque ça a été farouchement débattu. Mais a priori, l'idée que au sein d'une entreprise, l'obligation de prévenir son employeur avant de chercher d'autres voies de lancement d'alerte a été battue en brèche.
Oui, mais ça, c'est le Parlement européen. Avant que cela intervienne dans les législations nationales, ça va prendre un certain temps, je l'imagine. Et comme d'ailleurs pour certains, pour qui il est difficile ensuite, une fois qu'on a lancé l'alerte, de continuer à travailler. C'est le cas, par exemple, de Karine Benali. Karine Benali a dénoncé donc des dépôts sauvages dans l'usine ArcelorMittal. Il a été licencié et c'est dur pour lui encore.
Avoir une sacrée carapace, être insulté, pas retrouver de boulot, vivre avec le RSA. On fait notre devoir citoyen et finalement, à la fin du compte, on est détruit.
Le temps du débat, vous écoutez le temps du débat sur France Culture, un temps du débat consacré à la question des lanceurs d'alerte, allié à ceux et celles qui sont célèbres comme vous, Irène Frachon, qui d'une certaine façon sont devenus des porte-drapeaux justement de cette cause des lanceurs d'alerte, et il y a tous les autres qui sont d'ailleurs dans un dossier, un article de Oui Demain, la revue pour changer l'époque, et parmi eux et elles, on parle justement de Karim Benali. C'est un cas particulier parce que voilà quelqu'un qui voit et qui filme donc un dépôt sauvage de matières donc qui ne doivent pas être déposées dans la nature. Il est chauffeur de camion et ensuite il perd son travail, Francis Château-Renault.
Oui, en fait, les trajectoires sont extrêmement diverses selon les appuis, les statuts, les positions, les qualités oratoires. Enfin, tout va jouer, si vous voulez, dans les différences entre les dossiers.
Vous voulez dire que si on a vu Erin Brockovich, si on a vu la fille de Brest,
autour de soi, si on a un réseau, si on a des supports. On pense aujourd'hui à Antoine Deltour, avec qui j'ai beaucoup débattu. Deltour, il n'arrête pas de dire, j'avais un énorme comité de soutien.
Celui, donc, le LuxLeaks, voilà, qui a été, donc, le révélateur.
LuxLeaks qui a gagné son procès, qui a été long aussi, qui a été assez violent parce que d'une certaine manière il était mis en cause et qui en fait était sur une frontière assez intéressante parce qu'il dénonçait au fond des procédés d'optimisation fiscale. Donc on est dans les frontières du légal, de l'illicite, de l'illégal, etc., etc. Donc il a fait aussi quelque chose, mais il était sorti, il n'était plus dans l'entreprise en question. Et donc il y a des situations extrêmement diverses. Et là,
c'est pour ça que vous considérez par exemple que les journalistes ne sont pas véritablement, pour vous, des véritables lanceurs d'alerte. En l'occurrence,
ils peuvent le devenir. Ça dépend complètement du processus par lequel ils vont être amenés à faire une action ou une prise de parole qui n'est pas prévue dans leur activité quotidienne.
Historiquement, on en connaît une qui est Anne-Marie Casteret.
Tout à fait. Oui.
Dans l'affaire du sang contaminé. Qui d'ailleurs a connu un peu les vicissitudes des lanceurs d'alerte, y compris au sein de sa profession, après avoir dévoilé l'existence d'un document qu'on lui avait remis dans des conditions assez rocambolesques et qui démontrait que un responsable de l'établissement du sang avait délibérément donné l'ordre de découler des stocks qu'il savait contaminés par le VIH, et ce qui a amené à une condamnation pénale.
Philippe Hubert, ces questions se posent aussi parce que en tant que citoyen, on pourrait se dire, mais à qui dois-je m'adresser? Si je vois un abus quelque part dans mon entreprise, si je vois un abus dans mon administration, si je vois quelque chose qui est illégal en train d'être fait, est-ce que je m'adresse à l'INERI si cela concerne les risques environnementaux? Est-ce que je m'adresse à l'ANSES pour les risques sanitaires? Enfin, on ne sait pas très bien quoi faire en tant que citoyen. Donc on se dit, comme par exemple a pensé Corinne Lepage, pourquoi pas un lieu unique pour que tous les citoyens puissent, à un moment ou à un autre, s'adresser à une autorité suprême qui dirait, ben voilà, on reçoit votre plainte, on reçoit votre dénonciation et on va l'instruire.
Oui, alors ça, il y a pas mal de...
Ça nous arrive d'intervenir effectivement...
Philippe Hubert et puis Irène Frachon ensuite. Philippe
Hubert. Ça nous arrive assez souvent d'intervenir pour réorienter les gens. Mais par rapport au sujet précédent, je voulais évoquer un point là qu'on n'a pas évoqué à propos de la loi sur... la loi, elle protège assez bien, elle est bien calibrée pour protéger, enfin, bien ou mal, enfin, ça, on vient de le dire, mais elle vise à protéger les gens qui dénoncent quelque chose qui se passe à l'intérieur de leur entreprise. Dans une institution comme la nôtre, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Le problème, c'est quand on voit quelque chose à l'extérieur et comment est-ce qu'on porte la parole à l'extérieur. Et c'est là que on se retrouve finalement l'espèce de tremplin que devait constituer la loi initialement, c'est-à-dire avec la possibilité de s'associer, un salarié qui s'associe à l'INERIS pour effectivement dire qu'il y a un problème, ne peut plus, ça peut plus suivre ce chemin-là pour aller ensuite...
Parce que la loi Sapin 2, donc, est revenue sur la proposition de la loi Blandin de 2013, et donc restreint plus ou moins la possibilité...
Elle est très interne dans sa logique, et donc ce à quoi on réfléchit, c'est de se dire, si, comment est-ce qu'on va faire maintenant, si quelqu'un voit quelque chose, est-ce que l'INERIS va se mettre derrière lui pour que celui-ci puisse, à titre individuel, porter le sujet? Et sinon, pour répondre à votre question, oui, on reçoit assez souvent des gens qui nous disent « Ah ben, à côté de chez moi, il y a vraiment un truc qui va pas bien, etc. » Et bon, souvent, c'est des cas relativement simples et on peut lui dire « Écoutez, adressez-vous au préfet, adressez-vous à l'agence régionale de santé et on vérifie que les choses suivent leur cours. » Il faut comme Et ça arrive souvent quand même que quand les gens signalent un problème, ils soient pris en charge.
Oui, Irène Frachon, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition d'avoir un lieu unique de référence, pourrait-on dire, qui serait simple pour chaque citoyen? Il serait simple de contacter pour dire, voilà, j'ai vu un abus quelque part et je voudrais le dénoncer.
Alors, l'idée est séduisante, sa mise en œuvre est extraordinairement complexe puisque l'alerte est très protéiforme et que il n'y a rien de plus difficile que de trier et d'y voir clair. Moi, je le sais parce que j'ai reçu énormément de messages de lanceurs d'alerte entre guillemets autoproclamés avec des alertes très fortes et puis certaines qui me paraissaient moins crédibles et puis je n'avais pas forcément bien sûr l'expertise. Alors il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à cette situation là par exemple l'organisation l'ONG Transparency International a beaucoup travaillé ce sujet là sur le plan juridique, a édicté une sorte de guide juridique pour le lanceur d'alerte et même lancer l'initiative de la création d'une maison de l'alerte. Donc, et je crois que ce genre d'initiative existe et ce sera intéressant de voir si l'encadrement comme ça par associatif de ce type de structure peut effectivement encadrer et conseiller des lanceurs d'alerte ou des gens qui pensent avoir vu des dangers qu'il faut dénoncer. De la même façon, les lanceurs d'alerte se retrouvent. Il se trouve que tous ces lanceurs d'alerte dont on parle, je les connais et je les ai rencontrés, j'ai échangé avec eux
au sein du salon
des livres et l'alerte, voilà, ouais. qui est
en novembre, c'est ça,
voilà, du 22 au 24 novembre, qui va se tenir à Montreuil. C'est sa quatrième édition,
la cinquième.
Ouais. Et donc qui est organisé par un lanceur d'alerte lui-même qui alerte sur le danger, enfin le risque économique et écologique de la ligne Lyon-Turin. Vous voyez, c'est Daniel Libanaise et qui organise avec un engagement formidable ce salon qui est intéressant parce que la porte d'entrée, c'est le livre. C'est donc une façon, je trouve, déjà d'exposer les éléments de preuve, ce que les gens ont à dire et à exposer. Et puis, c'est très ouvert, c'est-à-dire qu'on peut vraiment rencontrer absolument tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était des rencontres utiles. Et je le signale d'ailleurs à des auditeurs qui souhaiteraient...
C'est le 22, 23, 24 novembre prochain.
Échanger, rencontrer des lanceurs d'alerte, savoir comment comment ça se passe et prendre aussi les précautions nécessaires parce que un lanceur d'alerte qui fonce il peut foncer droit dans le mur et se retrouver avec des très très grandes difficultés juridiques et autres. Et la détresse d'un Karim
Ben Ali,
je l'ai rencontré, m'a vraiment complètement bouleversé. Ouais. Alors que la sincérité de sa démarche est absolument ne fait aucun doute.
Francis Chateaureno, sur ces questions et la possibilité ou pas de créer une instance unique qui rassemble toutes les plaintes et toutes les demandes venant de partout, de tous les types de citoyens. Mais évidemment, pour cela, il faut, comme le dit très bien Irène Frachon, avoir des gens qui, de l'autre côté, dans cette instance unique, sont capables de juger de la possibilité ou non de continuer l'enquête autour de ces questions-là.
Tout à fait. Le mot-clé, effectivement, c'est l'enquête et un autre mot-clé, c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'il faut avoir des structures dans lesquelles des acteurs sont capables de se saisir d'un dossier en toute indépendance, de le mettre en discussion, de prendre au sérieux à la fois les problèmes humains et sociaux qui vont avec, justement, par exemple, un licenciement, avec des mauvais traitements, une discrimination, enfin, tout ce qu'on connaît. D'ailleurs, le défenseur des droits est maintenant mobilisé dans cette question de l'alerte.
Absolument.
Et de l'autre, de pouvoir mener la controverse scientifique. C'est-à-dire, au fond, faire un état des choses, regarder ce qu'on connaît, ce qu'on connaît pas, est-ce qu'on a des données, est-ce qu'on a des enquêtes, est-ce qu'on a des études. Et finalement, venir un petit peu titiller les agences. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'ANSES, mais je dois dire que de temps en temps, c'est pas mal quand il y a des acteurs, y compris des ONG, qui viennent parfois avec des connaissances assez expertes, poser des questions de fond sur la manière dont sont faites les recherches, les études, les expertises, etc. Donc ça, il faut l'organiser. Alors je pense que ça
prend... Pour ça, il faut ouvrir.
Il faut ouvrir. Il faut que les controverses et les débats publics se déploient et il faut une pluralité d'instances. Je crois pas qu'on va trouver l'instance parfaite sur tous les sujets.
Philippe Hubert, sur ce point brièvement.
Oui, moi je crois pas complètement à l'instance unique, d'autant plus qu'il faut pas oublier que le but, c'est quand même que l'alerte arrive et il faut pas oublier qu'il y a des institutions dont le but, c'est de collecter les alertes. Et il faudrait pas qu'il y ait deux univers complètement séparés. Par exemple, Santé publique France qui fait de la veille sur ce qui peut se passer en termes de santé. Et puis, par ailleurs, une maison de l'alerte. Là, je pense qu'on arriverait à quelque chose d'un peu bizarre, quoi, avec deux yeux qui se regardent pas. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Il faut quand même aussi ne pas oublier de faire bien fonctionner les institutions dont c'est le métier. Donc c'est un peu l'équivalent du Center of Disease Control en France. Et ça, on ne peut pas passer à côté au motif que dans d'autres cas, on a besoin d'individus.
Alors ça pose une autre question. C'est la question de l'instrumentalisation de l'alerte. Et d'ailleurs, des sénateurs, au moment de la loi Sapin 2, s'étaient posé cette question comme François Pilet.
Le Sénat a établi un équilibre sur les lanceurs d'alerte qui peut, me semble-t-il, permettre de préserver ce qui est l'alerte éthique de ce qui peut être quelquefois d'un domaine un peu plus obscur. C'est celui qui, pour une raison personnelle, a lancé une alerte qui pourrait s'assimiler à une rumeur. C'est celui qui est le petit soldat d'un concurrent pour couler une autre entreprise.
Qu'est-ce que vous pensez justement de cette approche, disons, à petits pas, pourrait-on dire, Francis Chateaureno et Irène Frachon, de cette question de l'alerte?
Irène Frachon. Il se trouve que, toujours dans ce cadre, la discussion au Sénat, un sénateur, par ailleurs professeur de médecine, Claude Duriez, qui est assez connu, a écrit une tribune à l'occasion du débat sur cette loi, pour dire qu'il ne fallait pas confondre la délation et le lancement de l'alerte. Et il a pris comme exemple l'affaire du Mediator. Et dans sa logique et dans sa tribune, j'étais un délateur.
Mmh. Et alors, vous avez considéré que c'était une drôle de façon de vous qualifier, c'est cela ?
Ma qualification, très clairement, dans cette tribune, me rangeait dans la catégorie de la délation, c'est-à-dire quelque chose de dangereux, en prétendant et en combattant notamment l'évaluation des victimes liées à l'affaire du Mediator. Donc, bim, instantanément, cette discussion m'est arrivée droit dedans et je suis tombée du côté du délateur.
Francis Adorino. Oui,
bon, moi j'étais catastrophé quand j'ai lu ce truc.
Oui, bah, il n'est pas là pour se défendre, donc on peut pas le.
Oui, non, mais puis moi je ne suis pas un intellectuel polémique, donc je ne fais pas des tribunes pour répondre à des tribunes, mais je note. Et ce qui est intéressant quand même c'est-à-dire que dans tout processus d'alerte, il y a toujours un moment de décrédibilisation, c'est-à-dire où on cherche quand même à.
Oui, ça fait partie d'ailleurs du scénario.
Les intérêts qui poussent X ou Y à parler, le réseau qui serait derrière, le type d'influence, voire le type de doctrine qui pourrait éventuellement influencer sa vision sur tous les sujets. On a vu ça sur les OGM, sur Snowden, sur toutes sortes de choses. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément quand je parle de séparation, c'est qu'à un moment donné, la discussion sur ce qui amène les personnes à faire ce qu'elles font, et avec toute la dimension héroïque qu'il peut y avoir dans le lancement d'alerte, toute la dimension dramaturgique, voire théâtrale.
Vous parliez de Cassandre au début, voilà, donc voilà.
Et de l'autre, l'alerte elle-même, l'alerte qui va devenir un objet collectif, comme le climat, par exemple, aujourd'hui, qui est une préoccupation permanente. On voit bien avec des scénarios extrêmement pessimistes, d'ailleurs, avec une science du climat et donc des acteurs qui s'en saisissent, des politiques qui s'en saisissent, etc. Et donc, tout ce processus doit être quand même pris au sérieux. C'est au fond, c'est comme un acte médical, d'une certaine manière. Il faut être très, très attentif et soigneux et pas basculer dans la polémique. Et là, quand les acteurs basculent dans la polémique, il faut les pointer du doigt tout de suite et dire vous cherchez essentiellement à rendre l'alerte intraitable.
Voilà. Philippe Hubert.
Oui, je crois que tu es tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut que l'alerte passe. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'il y a deux façons de dire passer. Ça peut passer parce qu'on la laisse passer et on n'en fait rien. Et elle passe comment?
Comment dire? Qu'elle soit prise en compte. Hein, donc, sachant que. Et c'est ça qui doit compter. Je veux dire, plutôt que. C'est la fin prime, c'est-à-dire qu'il faut que quand il y a un sujet qui soit soulevé. Ça passe, que les gens qui le portent ne soient pas disqualifiés, on voit tous les jeux qu'il peut y avoir pour faire du. Je me rappelle que par exemple sur le tabac, les gens ont réussi à peu près pendant 40 ou 50 ans à dire que il y avait peut-être plein d'autres causes au cancer du poumon. Donc la finalité, je crois qu'on doit la garder en tête, c'est dire il faut que le système, soit par la défense des individus, soit par la mise en place de structures solides. Et mieux par les deux à la fois, plutôt qu'en opposant les deux, face que quand un problème émerge, on le repère.
Oui, Irène Frachon, vous disiez plutôt Cassandre, je préfère Antigone.
Oui.
C'est vrai? Vous préférez Antigone, c'est ça?
Oui. Oui.
Est-ce que vous ne craignez pas, Irène Frachon, que votre exemple ne finisse par banaliser cette notion de lanceur d'alerte? C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'était la question qu'on posait, est-ce qu'on ne serait pas tous des lanceurs d'alerte? C'est-à-dire qu'on ne se transforme pas tous en citoyens dénonçant des crimes réels ou supposés, en tout cas des délits, auprès d'instances qui nous écouteraient ou pas?
D'une certaine façon, c'est le procès pénal fleuve de 6 mois qui s'annonce lundi, qui va répondre le mieux possible, je pense, à votre question. C'est-à-dire que la validation de cette alerte qui va conduire à son terme, ce qui est exceptionnel, c'est-à-dire à l'ouverture, effectivement, d'une instruction, puis d'un procès pénal qui va être absolument gigantesque, hors norme, ça démontre que ça n'est pas si souvent que cela arrive.
Ouais.
Et donc,
vous n'êtes pas si nombreux et si nombreuses dans ces conditions-là.
Voilà. Et d'ailleurs, pour être très clair, je ne l'ai jamais cherché. Hein. J'ai été témoin d'une affaire qui ne m'a pas paru acceptable de laisser passer, parce que j'étais particulièrement bien placée pour collecter des preuves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est la notion de la preuve qui s'apparente à ce qu'on exige des journalistes, qui ne sont effectivement pas des lanceurs d'alerte, mais qui connaissent très bien ces conditions des enquêtes préalables au lancement, non pas d'une alerte, mais à la publication d'un article, pour lequel ils vont devoir se défendre éventuellement d'attaques en diffamation. Et ils savent très bien que c'est la qualité de l'enquête, l'intérêt général, un certain nombre de conditions qui vont les garantir.
Merci,
de ces sanctions.
Irène Frachon. Il faut que nous terminions cette discussion avec vous. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis les studios de Radio France à Quimper, qui vous ont accueilli et que nous remercions pour cela. Merci à vous également, Philippe Hubert. Merci, Francis Château-Renaud, d'être venu discuter de cette question des lanceurs d'alerte dans notre société aujourd'hui, le jour même où paraissent les mémoires vives de Edward Snowden. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richet, Hugo Boursier, Louise André à la technique aujourd'hui, Adèle Caglar à la réalisation, Gilles Blanchard. 18h59 et une poignée de secondes. Rebonsoir Arnaud Laporte.
Bonsoir à nouveau.
Oui, bonsoir. Je ferai tous les soirs et vous le ferez tous les soirs, c'est bien. Voilà, donc
quelques instants pour dire que à 19h03 débutera une dispute consacré à la musique ce soir. Demain, le temps du débat, Emmanuel ?
Eh bien, le temps du débat, demain, nous parlerons des pesticides, un autre débat empoisonné.